Peut-être suivez-vous le Tour de France. Pour ma part, dimanche dernier, j'ai suivi l'étape qui conduisait les coureurs à Chambéry. Et j'écoutais les propos des commentateurs sportifs qui évoquaient les enjeux qui sont là, qui sont face aux équipes engagées dans ce tour. Et en particulier, un des joueurs interviewés avant la course expliquait quels étaient les enjeux de son équipe en les jugeant de la plus haute importance. Et il était clair que pour lui, de tels enjeux méritaient bien les efforts consentis tout au long de la saison, depuis les entraînements quotidiens jusqu'aux privations de sortie de toutes sortes et même un régime alimentaire calibré sans aucun écart. Et puis c'est aussi au cours de cette étape que nous avons pu assister en direct à la chute en pleine descente du coureur Richie Porte, le coureur australien, qui est allé percuter un autre coureur avant de taper sur le rocher sur la droite de la route. Tous ceux qui ont vu cette chute ont frémi à cet instant en craignant vraiment le pire pour cet homme, tellement le choc était violent. Et en un instant, pour lui comme pour son équipe, les enjeux avaient changé de nature. Fini, bien sûr, pour lui, les attentes d'un maillot jaune à Paris, ne comptait plus maintenant que les nouvelles sur son état de santé. Et tous ont même accueilli avec un certain soulagement l'information médicale ne relevant que quelques fractures, clavicules, bassins, alors qu'on sait que quand même ce sont loin d'être de bonnes nouvelles, et nous avons pu le constater avec notre sœur Gabrielle, pour laquelle nous avons prié tout à l'heure, qui ne se lève que depuis peu, qui a eu les mêmes blessures, les mêmes fractures. Et ce sont encore de moins bonnes nouvelles, bien sûr, pour un cycliste professionnel. La fracture du bassin étant susceptible de le contraindre à mettre un terme à sa carrière, si, suivant l'état dans lequel ça s'est passé, suivant ce qu'il en reste, quelles sont les séquelles. Et donc, ce que j'ai relevé, c'est combien, en ces quelques minutes, les enjeux pour cet homme et son équipe ont changé de nature, du tout au tout. L'instant d'avant, rien n'était plus important que de se placer en position pour remporter le tour. Et puis, en une fraction de seconde, le contexte a basculé et on a craint pour sa vie. Et maintenant, l'enjeu est encore tout autre. Il est celui de son retour à la compétition. Et même pour le joueur percuté, l'enjeu a changé également, puisque lui était candidat, peut-être pas au maillot jaune, mais au podium, et cet accident a ruiné toute chance pour lui, au moins pour cette année. Je pense aussi à cet ancien coureur automobile, Michael Schumacher, dont on ne sait pas grand-chose concernant son état de santé depuis son accident sur une piste de ski, mais qu'on peut imaginer très dégradé, puisqu'il n'est plus jamais réapparu en public. Et tous ces accidents graves font frémir à la pensée qu'ils touchent chaque jour des milliers de personnes dans le monde qui passent en un instant d'une vie normale, parfois insouciante, comme sur la route des vacances, à une situation de profonde détresse, où tout à coup les valeurs qui avaient cours l'instant d'avant ne comptent plus et où s'imposent d'autres valeurs radicalement différentes. Peut-être avez-vous entendu parler aussi de cet avion uruguayen qui s'est écrasé à 3600 mètres d'altitude dans les Andes en 1972 et dont les rescapés n'ont dû leur survie qu'à la conservation des morts dans la neige qu'ils se sont résolus à manger en attendant des secours qui ne venaient pas. Et eux aussi sont passés d'une situation d'insouciance. Il s'agissait de joueurs d'une équipe de rugby qui allaient faire une tournée sans grand enjeu au Chili, à une situation dramatique où leur vie a radicalement changé et où leur vie même était engagée. Et là, même pour eux, la valeur même de l'argent avait changé, puisque désormais, dans ce froid et à cette altitude, la valeur de l'argent ne comptait plus qu'en calories, la chaleur dégagée par la combustion des billets de banque. Et leur constat était qu'elle n'était pas du tout proportionnelle au montant qui était indiqué sur la coupure. Et nous pourrions multiplier de tels exemples à l'infini. Et c'est pourquoi les amateurs de sensations fortes s'entourent de précautions d'un tel niveau qu'ils ne peuvent les apprécier seulement du fait qu'il n'y a pas de réel danger. S'il y avait un réel danger, la peur serait là, qui les dominerait et leur ôterait toute envie de s'y exposer. Alors j'en viens au sujet de notre message ce matin. Quels enjeux pour nous-mêmes ? Et pour cela, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, à partir du verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul utilise l'image de la compétition sportive, celle par laquelle nous avons commencé notre réflexion. Et ce qu'il nous dit est toujours valable de nos jours, et c'est ce que nous continuons d'entendre sur les antennes de télévision. Pour ces sportifs, l'enjeu est considérable. Et il justifie pour eux, sans aucun regret, tous les efforts qu'il faut consentir pour cela. Et plus encore, ils sont des dizaines, si je prends seulement le Tour de France, ils sont des dizaines dans la compétition, mais il n'y a qu'un maillot jaune. Et tous l'acceptent. Et ils sont d'autant plus motivés qu'il n'y a qu'un seul maillot jaune, et c'est ça qui lui donne toute sa valeur. Et ils sont prêts à beaucoup d'efforts pour cela. Alors Paul n'est pas en train de nous donner ici une image du ciel. Lorsqu'il parle de la couronne qui nous y attend, et qu'il la compare à celle après laquelle courent les athlètes, ce n'est pas pour nous dire qu'il n'y en a qu'une, et qu'elle est réservée à ceux d'entre nous qui arriveront les premiers, ou les bras les plus chargés d'œuvres bonnes de toutes sortes. C'est plutôt pour nous dire, si des hommes sont capables de s'imposer tous ces efforts pour un maillot jaune, pour le bouclier de Brinus, pour la médaille d'or, pour la Coupe du Monde, chose que vous savez passagère, alors prenez-les en exemple, imitez-les. À plus forte raison pour la couronne que vous savez éternelle, celle que vous remettra lui-même, le Dieu de toute éternité. Ça leur coûte beaucoup, ça vous coûtera beaucoup. Ils passent à côté de tant de choses attirantes et excitantes. Vous passerez à côté de tant de choses attirantes et excitantes. Ils y perdent des amis, probablement vous y perdrez des amis. Peut-être des proches ne les comprennent pas, et peut-être des proches ne vous comprendront pas. Mais considérez quel est l'objet de leur espérance. Et considérez quel est le vôtre. Les mythes ne mangeront pas votre maillot jaune. La médaille d'or ne se ternira pas. Vous ne serez pas obligé d'astiquer la coupe pour lui redonner son éclat. Si eux peuvent consentir autant d'efforts pour cette récompense périssable, alors à combien plus forte raison vos efforts seront-ils justifiés par la nature glorieuse et éternelle de votre récompense ? Imitez-les en tout, sauf en une chose, ne vous trompez pas d'objectif, ne vous trompez pas de combat. Oui, comme chrétiens, nous voulons vivre une vie sainte. Oui, nous voulons inculquer des valeurs chrétiennes à nos enfants et nous prions qu'ils fassent les bons choix dans leur vie. Oui, nous voulons nous comporter honnêtement et loyalement envers nos employeurs. Et bien sûr, nous voulons travailler fidèlement avec nos frères et sœurs dans l'Église pour faire des disciples. Mais peut-être oublions-nous parfois quel est l'enjeu. Peut-être oublions-nous parfois de porter le regard dont Paul parle aux Corinthiens et à nous. Peut-être que notre service s'accomplit sans cette espérance, sans cette joie d'entrevoir à l'avance la satisfaction de Jésus lorsqu'il nous la remettra. Peut-être le vivons-nous un peu comme une contrainte. Ou alors, consentons-nous nos efforts et nos privations comme un regret. Paul dit clairement que si cette pensée occupait constamment leurs esprits, la pensée de la couronne qui leur est promise, comme c'est le cas des athlètes, et pourtant pour quelque chose de moins glorieux, qui prouve que c'est à portée humaine, alors ils ne trouveraient pas si difficile que ça de mener le combat chrétien aux côtés de Jésus. Pas plus que de travailler pour en retirer les bénéfices, pas plus que de cultiver la terre pour en recueillir les fruits. Et voici d'ailleurs ce que dit Paul à Timothée pour l'encourager dans le service. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Mais revenons à notre passage. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Paul les invite, les Corinthiens, à prendre conscience que le combat n'est pas vain, malgré les maigres résultats immédiats apparents. Quand je lis les propos de Paul au sujet de courir à l'aventure, boxer en battant l'air, j'imagine assez aisément que peut-être il reprend en cela, il cite en cela le discours tenu par certains de ses adversaires, qui trouvent peut-être son ministère pas très efficace. D'autant que le contexte de ce passage fait largement mention de ce qu'ils disent de lui et de son ministère, on le voit dans les chapitres précédents. Dans mon parcours personnel, il y a 3 années très spéciales passées près d'un vieux missionnaire gallois au début de notre mariage, Chantal et moi. Un homme qui faisait beaucoup de visites, c'était son ministère. Il faisait des visites et il revisitait et j'avais un peu du mal à comprendre tous ses efforts pour visiter, revisiter des personnes qui, à mes yeux, ne manifestaient aucun intérêt pour les questions spirituelles, qu'on ne voyait qu'en de rares occasions, à Noël généralement, et à mes yeux, un peu pour s'empiffrer de gâteau. Quand je lis aujourd'hui ces paroles, courir à l'aventure ou boxer en battant l'air, je réalise qu'elles décrivent assez bien le regard dubitatif que je portais sur l'efficacité de telle méthode. Et il y a quelques années maintenant, cet homme est décédé, et Chantal et moi sommes allés à ses obsèques. Et à la réception qui a suivi la cérémonie et la mise en terre, quelle n'a pas été ma surprise de voir ces personnes devenues membres de l'Église. Et plus fort encore, c'est elles qui distribuaient les gâteaux aux invités. Non, le travail pour Dieu n'est pas en vain. Oui, tout ce que nous entreprenons au service du Seigneur trouvera sa récompense. Non, rien n'est trop petit si c'est ce que Dieu met sur notre cœur. Oui, il y a des récompenses qui attendent les serviteurs du Seigneur, tous les serviteurs, et pas seulement les pasteurs et les missionnaires. Non, il n'est pas anormal, ou mesquin, ou déplacé, que sais-je encore, de porter notre regard sur ces récompenses, parce que Jésus lui-même nous en a parlé, et parce que leur nature même de récompense céleste leur enlève tout le côté calculateur que nous reprochons à la poursuite des récompenses célestes. Et puisque Dieu sait quelles sont nos motivations et que nous savons que Dieu sait, tout le monde sait que les coureurs du Tour de France courent après le maillot jaune et personne ne trouve à y redire. Au contraire, peut-être nous jetterions un regard suspicieux sur celui qui ferait semblant d'ignorer qu'il n'y a pas de maillot jaune et qui court pour le plaisir. Nous lisons dans les évangiles que les disciples s'indignent contre ceux d'entre eux qui demandent d'être assis à la droite et à la gauche de Jésus lorsqu'il sera dans sa gloire. Jésus, lui, curieusement, ne s'en indigne pas. Il leur donne même la clé. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et juste avant le verset que j'ai cité dans la deuxième épître à Timothée, nous lisons « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. » C'est clair. Il est légitime et il est même encouragé d'aspirer à une récompense dans le ciel. Mais les règles qui régissent son obtention et sa hauteur sont clairement exposées dans nos textes. Nous l'avons lu, traiter durement notre corps, il n'est pas dit le maltraiter, le discipliner, nous imposer toutes sortes de privations et se faire le serviteur de tous. Alors je sais que ce n'est pas un discours très vendeur, hein, à l'époque des spas, des établissements de soins du corps, mais il faut savoir ce que nous voulons et après quoi nous courons. Je crois me souvenir que Chris Short nous a dit l'automne dernier de ne pas trop nous écouter au moment de faire le choix d'aller ou non à la réunion de prière. Et nous disposons d'un modèle. Celui qui sera le plus glorifié aura été celui qui sera devenu le plus humble serviteur. Je parle bien sûr de Jésus-Christ. Pouvons-nous croire que Jésus ait passé les 33 ans de cette vie sur terre sans jeter un seul regard à la gloire qu'il attendait auprès de son Père? De nombreuses paroles dans sa bouche nous montrent qu'au contraire, que tout son être y aspirait. Il connaissait l'enjeu et il a combattu pour l'emporter. Lorsqu'on aborde cette question des récompenses pour le chrétien, de cette couronne dont Paul parle, il y a parfois cette suspicion d'un côté calculateur qui ressurgit. Si les chrétiens font le bien autour d'eux, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, mais c'est pour obtenir de Dieu une récompense. Au fond, ils n'ont pas en vue le bien des autres, ils recherchent leur propre bien dans le ciel. C'est faire au ciel, et à Jésus en particulier, une grande injustice. Le bien que nous sommes censés faire aux autres a pour but de les amener, eux, ces autres, à réfléchir au don gratuit de Jésus, de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et la gloire qui sera celle de Jésus, il désire la partager avec tous les hommes, et non la garder pour lui seul ou son cercle d'initiés. Si lui s'est tant humilié, c'est pour que tous les hommes soient sauvés et partage sa gloire. On peut difficilement imaginer quelqu'un qui s'est tant humilié par amour et a tant ordonné à ses enfants d'en faire de même, leur accorder un bienfait qui vienne récompenser un simple calcul et non un acte d'amour. Et si malgré tout un tel calcul devait se rencontrer chez un chrétien, alors ce serait de sa part un très mauvais calcul. Ainsi que le dit Paul aux Corinthiens, et je vous invite à venir au chapitre 3, à partir du verset 13, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. On ne peut pas imaginer une récompense céleste qui vienne récompenser autre chose qu'une valeur céleste. Dans le cas présent, la seule valeur céleste qui puisse motiver un service pour Dieu, c'est l'amour que nous lui portons. La seule valeur céleste qui puisse motiver un service pour les hommes, c'est l'amour que nous leur portons. Chapitre 4, Ainsi donc, qu'on y considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Nous avons fixé quel est l'enjeu pour nous-mêmes du combat que nous menons. Et volontairement, je m'en tiens à l'enjeu pour nous-mêmes. Et je ne me hasarderai pas à définir quel est pour Dieu l'enjeu que nous menons du combat en son nom. Dieu nous a demandé de nous regarder nous-mêmes comme des serviteurs inutiles, connaissant notre propension toute humaine à nous enorgueillir de tout ce que nous faisons. Ça me semble un conseil assez sage. Un autre écueil encore nous guette. Par trois fois dans le chapitre 6 de Matthieu, nous entendons dire au sujet de certains, ils ont leur récompense. Matthieu 6, 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Matthieu 6, 5. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout, dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. La répétition de cette formule, trois fois dans le même chapitre, ils ont leur récompense, doit vraiment nous faire réfléchir. D'autant qu'elle est associée trois fois aux hypocrites. Oui, les hypocrites tiennent leur récompense dans l'instant où ils reçoivent la louange des hommes. Il est assez frappant de constater combien nous pouvons être tentés dans ce domaine. Mais notre texte est clair. Si c'est la louange des hommes que nous cherchons, alors nous ne recevrons pas la louange de Dieu dont Paul nous a parlé précédemment, que nous venons de lire dans le chapitre 4. Il y a un choix à faire. En dehors de nous motiver au service du Seigneur, quelle est l'utilité de garder en point de mire cet objectif de récompense depuis que nous en parlons ce matin? Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. On pense bien sûr à Joseph, lorsque la femme de son maître vient lui proposer tout go, couche avec moi. Mais on pense aussi à Moïse. Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la femme du Pharaon, de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. À l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve, lorsqu'elle nous frappe, nous trouvons une aide puissante dans le souvenir de la récompense éternelle qui nous attend dans le ciel, sans commune mesure avec la jouissance éphémère que nous procure le péché, sans commune mesure avec la souffrance à laquelle nous sommes exposés. 2 Jean, versets 7 et verset 8. De très nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'Antichrist. Faites attention à vous-même. Ainsi, nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais nous recevrons une pleine récompense. Demeurer fidèle à la saine doctrine, ne pas nous laisser séduire par les doctrines déviantes, afin de ne pas mettre à terre tous nos efforts et que notre récompense n'en soit diminuée. 1 Corinthiens 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Nous ne sommes pas tous appelés à un même travail. Mais nous devons respecter le travail de l'autre pour le Seigneur, même s'il ne correspond pas exactement à l'idée que nous en faisons pour nous-mêmes. Et de même, pour nous-mêmes, nous ne devons pas nous décourager dans le travail auquel le Seigneur nous appelle, car nous serons tout autant récompensés que celui qui accomplit une œuvre peut-être plus importante à nos yeux. Colossiens, chapitre 3, versets 22 à 24. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Quand les hommes sont exigeants, difficiles à servir, que ce soit vos employeurs, nos professeurs, nos parents, ou peut-être même le frère qui se tient à nos côtés dans l'Église, ce n'est pas vraiment d'eux que nous avons envie de recevoir la louange. Ça tombe bien, ce texte nous dit que nous recevrons cette récompense du Seigneur lui-même. Et donc que nous pourrons trouver dans tout service la satisfaction de le servir lui, le Maître juste et saint. Pour terminer, je voudrais citer les paroles de Paul au moment où il sent que son heure de quitter cette terre approche. Seulement en 2 Timothée, au chapitre 4, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. »